Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Conan Doyle, Le chien des Baskerville. Mon sang se glaça dans mes veines. Le tremblement de la voix de Sir Henry traduisait l'horreur subite qui l'avait envahi. « Comment appelle-t-il ce cri ?» me demanda-t-il. « Qui ? Les gens de la campagne ? Oh, ce sont des ignorants. Que vous importe le nom qu'ils lui donnent ? Dites-le-moi, Watson, comment l'appelle-t-il ? J'hésitais, mais comment éluder la question? Ils disent que c'est le cri du chien des Baskerville. Il poussa un grognement lugubre. C'était effectivement un chien. Mais il a poussé son cri à une grande distance. Il est difficile de préciser d'où il venait. Il s'enflait et diminuait avec le vent. N'est-ce pas par là le grand bourbier de Grimpen ?
Si.
Eh bien, il venait de là. Allons, Watson, n'êtes-vous pas persuadé que c'était le cri du chien ? Mais je ne suis pas un enfant. Vous n'avez pas à avoir peur de me dire la vérité.
Stapleton était avec moi quand je l'ai entendu. Il m'a expliqué que c'était peut-être le cri d'un oiseau, d'un butor.
Non, c'était un chien.
Mon Dieu, y aurait-il du vrai dans toutes ces histoires ? Est-il possible que je sois exposé à un danger réel à cause de...
Vous ne le croyez pas, vous, Watson ?
Non. Et cependant... Quelle différence que de rire à Londres de cette histoire et de se tenir là dans la nuit de cette lande en entendant un cri pareil. Et mon oncle ? Il y avait l'empreinte du chien à côté de l'endroit où il gisait. Tout cadre, évidemment. Je ne crois pas que je sois un lâche, Watson, mais ce cri a gelé mon sang. Touchez ma main. Elle était aussi froide qu'un bloc de marbre.
Mais demain, vous serez remis.
Je ne crois pas que je pourrai oublier ce cri. Que me conseillez-vous maintenant ? Faire demi-tour ?
Nom d'un tonnerre, non ! Nous sommes sortis pour attraper cet homme. Nous l'attraperons. Nous pourchassons le forçat, mais un chien de l'enfer, comme c'est probable, nous pourchasse. Allons.
Nous irons jusqu'au bout, même si tous les monstres de Satan sont lâchés sur la lande. Nous avançâmes en... trébuchant dans l'obscurité. Le contour confus des collines déchiquetées nous encerclait, mais la lueur jaune brillait toujours devant nous. Rien n'est plus trompeur qu'une lumière dans une nuit noire. Tantôt elle nous semblait au bout de l'horizon, tantôt nous aurions juré qu'elle n'était plus qu'à quelques mètres. Finalement nous comprîmes d'où elle provenait. Nous étions tout proches. Dans une crevasse entre les rochers, une bougie coulait son suif. Elle était protégée par les pierres contre le vent, et elle ne pouvait être vue que de Baskerville Hall. Un roc de granit protégea notre approche. Nous nous accroupîmes derrière. C'était extraordinaire de voir cette bougie perdue en plein milieu de la lande, brûlant sans aucun signe de vie tout autour. Rien que cette flamme jaune droite, et de chaque côté l'éclat du roc.
« Que faire ?» chuchota Sir Henry.
« Attendre ici ? Il doit être près de cette bougie. Voyons si nous pouvons l'apercevoir. » J'avais à peine fini de parler qu'il apparut. Par-dessus les rochers et de la crevasse où était fichée la bougie, une vilaine figure jaune se détacha. Une figure bestiale, abominable, qui reflétait les passions les plus viles. Barbouillé de boue, barbe hirsute, échevelé, il aurait pu passer pour l'un de ces sauvages qui habitaient dans les petits villages en pierre. Dans ses yeux petits, rusés, se reflétait la lueur de la bougie. Il regarda farouchement à droite et à gauche et fouilla la nuit comme un animal sauvage qui aurait flairé des chasseurs. Ses soupçons avaient été éveillés. Peut-être Barrymore manifestait-il habituellement sa présence par un signal convenu que nous n'avions pas fait. Peut-être avait-il d'autres motifs pour croire au danger. En tout cas, la peur se lisait sur son visage terrifiant. À tout moment, il pouvait éteindre la bougie et fuir. Je bondis donc en avant et Sir Henry m'imita. Au même instant, le forçat nous cria une malédiction et nous lança un morceau de roc qui se brisa sur la grosse pierre qui nous avait servi de parapet. J'aperçus nettement sa silhouette trapue, courtaude, vigoureuse, quand il s'élança pour fuir. Par un heureux hasard, la lune troua les nuages. Nous escaladâmes la colline. Sur le versant opposé, notre homme dévalait à toute allure, sautait de rocher en rocher avec l'agilité d'une chèvre. J'aurais pu l'estropier en déchargeant mon revolver, mais je ne l'avais emporté que pour me défendre en cas de régression, pas pour tirer sur un homme désarmé qui s'enfuyait. Nous étions tous deux de bons coureurs en bonne forme, mais nous découvrîmes rapidement que nous n'avions aucune chance de le rattraper. Nous le suivîmes des yeux pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'une toute petite tache se déplaçant parmi les pierres, sur le flanc d'une colline éloignée. Nous courûmes jusqu'à tomber à bout de souffle, mais l'espace entre nous s'accroissait sans cesse. Finalement, nous nous abattîmes haletants sur deux rochers. Il disparut bientôt dans le lointain. À ce moment, se produisit un incident tout à fait imprévu, invraisemblable. Nous venions de nous lever pour rentrer au manoir. La lune était basse sur notre droite. Le sommet tourmenté d'un pic de granit se profilait contre le bord inférieur de son disque d'argent. Là, sculpté comme une statue d'ébène sur ce fond brillant, se dessina un homme au haut du pic. Ne croyez pas à un mirage, Holmes. Je vous assure que de ma vie, je n'ai rien vu d'aussi net. Pour autant que j'en pouvais juger à cette distance, l'homme était grand, mince, se tenait jambes écartées, bras croisés, tête baissée, comme s'il méditait sur cet immense désert de tourbe et de granit qui s'étendait derrière lui. Il aurait pu être le noir esprit de ce lieu sinistre. Ce n'était pas le forçat. Selden se trouvait loin de l'endroit où se dressait l'inconnu, qui, de surcroît, était beaucoup plus grand. Je poussai un cri de surprise et le désignai au baronnet, mais pendant l'instant où je me détournais pour attraper le bras de Sir Henry, l'homme avait disparu. Le sommet aigu du pic coupait encore le bord de la lune. Toutefois, la silhouette immobile et silencieuse n'y était plus. Je voulais marcher dans cette direction et fouiller le pic, mais c'était loin. Les nerfs du baronnet avaient été trop secoués par l'aboiement qu'il avait replongé dans le sombre passé de sa famille. De nouvelles aventures ne lui disaient rien. Il n'avait pas vu mon inconnu solitaire sur le pic et il ne partageait pas mon excitation. « Un garde, sans doute, » me dit-il. « Depuis que le forçat s'est évadé, la lande fourmille de gardes. » Peut-être son interprétation est-elle la bonne, mais j'aurais aimé en avoir la preuve. Aujourd'hui, nous communiquerons à Princetown la direction où se cache l'évadé. Mais c'est dommage que nous n'ayons pas pu triompher complètement en ramenant Selden prisonnier. Telles sont les aventures de cette nuit, mon cher Holmes. Et vous reconnaîtrez, j'espère, que mon rapport est digne de vous. Il contient certes beaucoup de renseignements tout à fait négligeables, mais je persiste à penser que j'ai raison de vous informer de tout en vous laissant le soin de choisir les éléments qui vous aideront à parvenir à vos conclusions. Certainement, nous progressons. En ce qui concerne les Barrymore, nous avons découvert le mobile de leur acte et la situation s'en est éclaircie. Mais la lande, avec ses mystères et ses étranges habitants, demeure indéchiffrable. Peut-être dans mon prochain rapport pourrais-je vous apporter à son sujet un peu de lumière. Le mieux serait que vous veniez ici. Extrait de l'agenda du docteur Watson. Jusqu'ici, j'ai pu reproduire les rapports que j'avais expédiés durant ces premiers jours à Sherlock Holmes. Maintenant, je suis arrivé à un point de mon récit où je me vois contraint d'abandonner cette méthode et de me fier une fois de plus à mes souvenirs, que confirme l'agenda que je tenais à l'époque. Quelques extraits de celui-ci me permettront de décrire des scènes dont chaque détail reste fixé dans ma mémoire. Je commence donc par la matinée qui suivit notre vaine chasse aux forçats et nos autres aventures peu banales sur la lande. 16 octobre, jour triste, avec brouillard et crachin. Le manoir est cerné par des nuages qui roulent bas, qui se soulèvent de temps en temps pour nous montrer les courbes mornes de la lande, les minces veines d'argent sur les flancs des collines et les rochers lointains qui luisent quand la lumière frappe leur face humide. La mélancolie est à l'intérieur comme à l'extérieur. N'ai-je pas de solides raisons pour craindre le pire ? Considérons la longue succession d'incidents qui tous soulignent la sinistre influence qui nous entoure. Il y a la mort du dernier occupant du manoir, mort qui s'accorde si exactement avec la légende familiale. Il y a les rapports répétés des paysans touchant l'apparition d'une bête monstrueuse sur la lande. N'ai-je pas moi-même entendu de mes propres oreilles par deux fois un bruit qui ressemblait à l'aboiement d'un chien ? Il est incroyable, impossible, que les lois ordinaires de la nature soient violées. Un chien fantôme ne laisse pas d'empreinte matérielle, ne remplit pas l'air de son cri. Stapleton peut admettre une telle superstition, et Mortimer aussi, mais si je n'ai qu'une qualité, c'est le bon sens, et rien ne me fera croire à des énormités pareilles. Y croire serait descendre au niveau de ces pauvres paysans qui ne se contentent pas d'un simple chien du diable, mais qui éprouvent le besoin de le dépeindre avec les feux de l'enfer jaillissant de sa gueule et de ses yeux. Holmes n'accorderait aucun crédit à ces fables. Or, je suis son représentant. Mais les faits étant les faits, j'ai par deux fois entendu ce cri sur la lande. Si j'admets qu'un grand chien erre réellement sur la lande, cette hypothèse explique presque tout. Mais où pourrait se dissimuler une bête pareille ? Où va-t-elle chercher sa nourriture ? D'où vient-elle ? Comment se fait-il que personne ne l'ait vue de jour ?
The good.
Denis Flageol.
Après donc cette pause musicale habituelle, nous revenons au chien des Baskerville. L'explication naturelle s'entoure d'autant de difficultés que l'autre. Et en dehors du chien, subsiste cet espion dans Londres, l'homme dans le fiacre et la lettre qui mettait Sir Henry en garde contre la lande. Voilà au moins du réel. Mais il peut s'agir d'un protecteur comme d'un ennemi. Où est maintenant ce protecteur ou cet ennemi? Est-il resté dans Londres? Nous a-t-il suivis ici? Se peut-il que ce soit lui? Oui, que ce soit l'inconnu que j'ai vu sur le pic. Il est vrai que je n'ai fait que l'entrevoir. Pourtant, je suis prêt à jurer, par exemple, qu'il n'est pas un habitant des environs. Je les connais. Il était beaucoup plus grand que Stapleton, beaucoup plus mince que Frankland. Il ressemblait plutôt à Barrymore, que nous avions laissé derrière nous, et dont je suis certain qu'il n'a pas pu nous suivre. Un inconnu donc nous surveille ici, de même qu'un inconnu nous a suivis dans Londres. Nous ne l'avons jamais semé. Si je pouvais lui mettre la main au collet, nous serions peut-être au bout de nos difficultés. C'est à ce but que je dois maintenant consacrer toutes mes énergies. Mon premier mouvement fut de m'en ouvrir à Sir Henry. Le deuxième, et le plus sage, fut de jouer mon jeu sans avertir quiconque. Le baronnet est taciturne, distrait. Ses nerfs ont été sérieusement secoués par ce cri sur la lande. Je ne dirai rien qui puisse ajouter à son malaise. Mais je prendrai les mesures compatibles avec mes projets. Un petit incident se produisit ce matin après le déjeuner. Barrymore sollicita un entretien avec Sir Henry et ils s'enfermèrent quelques instants dans le bureau. Assis dans la salle de billard, j'entendis par intermittence les voix monter de ton et je pus deviner le sujet de la discussion. Finalement, le baronnet ouvrit sa porte et m'appela. Barrymore considère qu'il a un reproche à nous adresser, me dit-il. Il pense que ça a été déloyal de notre part de pourchasser son beau-frère alors que, de son plein gré, il nous avait mis dans le secret. Le maître d'hôtel, très pâle, mais maître de lui, se tenait devant nous. « J'ai peut-être, monsieur, parlé avec trop de chaleur, » dit-il. « Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai été fort surpris de vous entendre rentrer ce matin et d'apprendre que vous aviez donné la chasse à Selden. Pauvre type a suffisamment d'ennemis sans que je lui en mette d'autres sur son chemin. » « Si vous l'aviez dit de votre plein gré, ça aurait été différent, » répliqua le baronnet. « Vous nous avez parlé, ou plutôt votre femme nous a parlé, parce que vous y avez été contraint, et que vous n'aviez plus la possibilité de vous taire. »
« Je ne croyais pas que vous tireriez avantage de cette situation, sœur Henri. Non, vraiment, je ne le pensais pas.
Selden est un danger public. » Il y a des maisons isolées sur la lande et il ferait n'importe quoi. Il suffit de voir sa tête pour en être sûr. Pensez à la maison de M. Stapleton. Elle n'a que lui pour la défendre. Avant qu'il soit remis sous les verrous, personne ne sera en sécurité.
Il ne cambriolera plus, monsieur, je vous en donne ma parole solennelle. Et il ne s'attaquera à personne dans la région. « Je vous assure, sœur Henri, que dans quelques jours, les arrangements nécessaires seront terminés pour qu'il s'embarque vers l'Amérique du Sud. »«
Pour l'amour de Dieu, monsieur, je vous supplie de ne pas avertir la police qu'il est toujours sur la lande. »«
Ils ont abandonné la poursuite, il peut se cacher jusqu'à ce qu'un bateau puisse le prendre. »«
Vous ne pourriez pas le dénoncer sans me causer de graves ennuis à moi et à ma femme. »« Je vous demande instamment, monsieur. » de ne pas informer la police.
Quel est votre avis, Watson ?
Je haussai les épaules en répondant : S'il quitte vraiment le pays, ce sera un soulagement pour le contribuable anglais.
Mais avant son départ, ne commettrait-il pas un crime ?
Il ne fera rien d'aussi fou, monsieur. Nous lui avons fourni tout ce dont il avait besoin. Commettre un crime serait dévoiler sa cachette.
Oh, c'est vrai, fit sœur Henri.
Eh bien, Barrymore, Dieu vous bénisse, monsieur, et merci du fond de mon cœur. S'il avait été repris, ma pauvre femme en serait morte.
Bon, je crois, Watson, que nous sommes en train d'aider et de protéger le péché. Mais après avoir entendu Barrymore, je ne me sens pas capable de livrer cet homme.
Très bien, Barrymore, vous pouvez vous retirer.
Le maître d'hôtel bafouilla encore quelques mots de gratitude. Il allait sortir, puis il revint vers nous.
« Vous avez été si bon pour nous, monsieur, que j'aimerais vous payer de retour. Je sais quelque chose, sœur Henri. Peut-être aurais-je dû le dire plus tôt, mais je ne l'ai découvert que longtemps après l'enquête. Je n'en ai soufflé mot à âme qui vive. C'est à propos de la mort de ce pauvre sœur Charles. »
Le baronnet et moi bondirent d'un même élan.
Vous savez comment il est mort ?
Non ? Non, non, monsieur, cela je ne le sais pas.
Mais que savez-vous alors ?
Ben, je sais pourquoi il était à cette heure-là devant la porte à Clairvoy.
C'était pour rencontrer une femme.
Une femme ? Lui ?
Oui, monsieur. Le nom de cette femme ?
Je ne peux pas vous le dire, monsieur. Je ne connais que ses initiales. Ses initiales étaient L.L.
Et comment savez-vous cela, Barrymore ?
Voilà, sœur Henri. Votre oncle avait reçu ce matin-là une lettre. D'habitude, il recevait le courrier important d'un homme public dont le bon cœur était célèbre. Tous ceux qui avaient des ennuis se tournaient vers lui.
Mais ce matin-là, par hasard, il ne reçut qu'une lettre.
Voilà pourquoi je la remarquais plus particulièrement. Elle avait été postée à Combe Tracy et l'écriture sur l'enveloppe était celle d'une femme.
Ensuite ?
Ensuite, monsieur, je n'y ai plus pensé et je l'aurais complètement oubliée sans ma femme. Il n'y a que quelques semaines, elle était en train de nettoyer le bureau de Sir Charles,
qui ne l'avait jamais été depuis sa mort.
Quand elle découvrit les cendres d'une lettre brûlée derrière la grille. La plus grande partie de cette lettre était en poussière, mais un petit bout, la fin d'une page, se tenait d'un bloc. Bien que ce fût du gris sur fond noir, l'écriture était lisible. Nous eûmes l'impression que c'était un post-scriptum à la fin d'une lettre. Il était écrit Je vous en prie, si vous êtes un gentleman, brûlez cette lettre et soyez à 10 heures devant la porte. » En dessous figuraient les initiales L.L.
Et vous avez ce bout de papier ?
Non, monsieur. Dès que nous l'avons déplacé, il est retombé en poussière.
Sir Charles avait-il reçu d'autres lettres de cette écriture ?
Ma foi, monsieur, je ne faisais pas spécialement attention à ces lettres. Je n'aurais pas remarqué celle-là si elle avait été accompagnée d'autres lettres.
Et vous n'avez aucune idée sur l'identité de L.L. ?
Non, monsieur, pas plus que vous. Mais je pense que si nous pouvions rattraper cette dame, nous en saurions davantage sur la mort de Sir Charles.
Mais je ne peux pas comprendre, Barrymore, comment vous avez dissimulé cette information importante.
Eh bien, monsieur, c'est qu'elle nous est arrivée immédiatement après nos propres ennuis. D'autre part, monsieur, nous étions tous deux très attachés à Sir Charles, comme c'était naturel après ce qu'il avait fait pour nous. Agiter cette histoire ne pouvait plus aider notre malheureux maître, et il est bon d'agir prudemment quand une dame est en cause. Même le meilleur d'entre nous.
Et vous pensiez que cela pouvait ternir sa réputation ?
Oh, je ne pensais pas que du bon pouvait en sortir. Mais vous avez été si généreux envers nous que je me sentirais déloyal si je ne vous disais pas tout ce que je sais sur l'affaire.
Très bien, Barrymore, laissez-nous maintenant.
Sir Henry se tourna vers moi.
Que pensez-vous, Watson, de cette nouvelle lueur ?
Elle me paraît obscurcir davantage notre nuit noire.
C'est mon avis.
Mais si nous pouvions retrouver L.L., tout serait éclairci.
Nous avons au moins gagné cela. Nous savons qu'il existe une femme qui connaît les faits. Il s'agit de la retrouver. Comment ?
Bon, mettons d'abord Holmes au courant, sans tarder. Nous lui donnerons ainsi l'indice qui lui manquait. Ou je me trompe beaucoup, ou cette nouvelle va le conduire ici.
Je montai immédiatement dans ma chambre et rédigeai mon rapport sur cette conversation. Il était évident que Holmes était diablement occupé ces temps-ci, car je ne recevais de Baker Street que des lettres brèves et rares, qui ne daignaient pas commenter les informations que je lui envoyais et ne faisaient pratiquement aucune allusion à ma mission.
Sans doute son affaire de chantage absorbait-elle toutes ses facultés. Mais tout de même, ce nouvel élément ne pouvait manquer de retenir son attention et de renouveler son intérêt. J'aimerais bien qu'il fût là.
17 octobre. Aujourd'hui, la pluie n'a pas cessé de tomber, de gicler sur le lierre, de s'égoutter des ifs. Je pensais à ce forçat réfugié sur la lande lugubre, froide, hostile. Pauvre diable. Quels qu'aient été ses crimes, il souffre pour les racheter. Et puis j'ai pensé à cet autre, la tête barbue dans le fiacre, la silhouette contre la lune. Était-il aussi sous le déluge, ce guetteur quasi invisible, cet homme de la nuit ? Le soir, je mis mon imperméable et je m'aventurai loin de la lande détrempée. Quantité de pensées sombres m'assaillirent. La pluie me fouettait le visage, le vent sifflait à mes oreilles. Que Dieu aide ceux qui errent dans le grand bourbier à présent, car même le sol ferme devient un bourbier. Je retrouvai le pic noir sur lequel j'avais vu le guetteur solitaire. Je l'escaladai, et de son sommet tourmenté, je contemplai la mélancolie du paysage. Les averses battaient obliquement les flancs roux des dunes, des nuages lourds, bas, ardoisés, et tiraient leurs échappes mornes autour des versants des collines. Dans un creux sur la gauche, à demi caché par la brume, les deux tours jumelles de Baskerville Hall se hissaient par-dessus les arbres. Nulle part je ne trouvais trace du solitaire que j'avais vu de nuit plus tôt.
Nous avons donc terminé pour ce soir. La suite donc de ce roman de Conan Doyle, Le chien des Baskerville. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.